sur RFI.
Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir, c'est une étoile qu'ils sont allés chercher là-haut, tout là-haut. Ils vont l'accrocher au-dessus de leur cœur, ce cœur qui, on l'imagine, bat très fort dans la poitrine de chaque joueur, dans la poitrine de chaque supporter français. Ce soir, mesdames, messieurs, nous sommes le dimanche 15 juillet 2018. Pour la deuxième fois de son histoire, la France soulève et embrasse ce qui est peut-être le plus beau des trophées, la Coupe du Monde de football. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mondial Sport, un numéro un peu spécial, forcément.
Le voilà sur le front. Il est assez excentré. Il prend des pas d'élan, la frappe et les buts. Attention, il faudrait qu'il le soit. On récupère la balle, il va y avoir une frappe et le but. L'égalisation croate. On vous l'a dit qu'elle pouvait revenir très vite. C'est Perisic, moi qu'il a été dégagé lentement ce ballon. Beaucoup trop lentement. Et Perisic qui le récupère tranquillement, qui se la met sur le pied gauche. Et à 15 mètres, dans une forêt de joueurs, qui vient trouver le petit filet. Et voilà la Croatie qui égalise, qui revient un partout.
Le pénalty qui va être tiré très très rapidement par Antoine Griezmann. Le coup de sifflet, il prend son élan, le buteur français. C'est parti, c'est dedans. Et 2-1 pour l'équipe de France. Le pénalty transformé par Antoine Griezmann. Le contre-pied parfait. Le ballon tiré sur la droite de Subasic qui était parti côté gauche. L'équipe de France mène 2-1 face à la Croatie. Antoine Griezmann récupère au niveau du point de pénalty derrière pour Paul Pogba. La frappe de Pogba, elle est contrée, la deuxième chance, la frappe. La frappe une dégauche à l'entrée de la surface qui crucifie Subasic sur son côté droit. La France met 3-1 face à la Croatie dans cette finale de Coupe du Monde. Attention, attention, Mbappé, la frappe de Mbappé. Les buts de Kylian Mbappé.
Quelle finale, mon Dieu, quelle finale, cette Coupe du Monde en Russie, je vous rappelle, c'était seulement la 21e depuis 1930, c'est dire si c'est un moment spécial que vous avez vécu en direct sur les antennes africaines de la Radio du Monde. Tout à l'heure, grâce aux voix et aux commentaires d'Olivier Pron, d'Antoine Grenier, de Farid Achache, vous avez vibré, suivi la victoire de l'équipe de France face à la Croatie, score final 4-2. Les Bleus porteront désormais une deuxième étoile sur leur maillot, celle qu'ils ont décrochée donc aujourd'hui à Moscou. Bonsoir, Olivier Pron.
Hey, bonsoir, Hugo Moissonnier, bonsoir à tous.
Vous êtes justement en direct de la capitale russe, fidèle au poste. Vous l'avez réussi, vous aussi, votre première finale, comme les joueurs de l'équipe de France, championne du monde, donc pour la deuxième fois de son histoire. Après, on l'a entendu, sa victoire face aux Croates.
Oui, c'était la quatrième Coupe du Monde pour moi, il était grand temps. J'avais commencé par celle de 98, mais je commentais pas la finale. Je peux vous dire que
20 ans plus tard, quel chemin.
J'y ai laissé de bonnes parties de... oui, quel chemin. Et un peu de voix perdue. Le score est fleuve, hein, comme on en avait plus vu depuis plus de 50 ans. Et puis surtout cette deuxième étoile dont vous parliez, à coudre et à porter sur le maillot bleu. Voilà ce qu'il faut retenir de cette finale. Emballée par l'équipe de France au moment où on l'attendait le moins, hein, au début de la deuxième mi-temps. Et certes, les hommes de Didier Deschamps mènent 2-1 grâce à des buts de Mandzukic contre son camp et d'Antoine Griezmann sur penalty, mais ils sont dominés outrageusement, on peut le dire, hein, sur le terrain à la reprise de cette deuxième période, dominés par des Croates plus techniques, plus volontaires, ils avaient plus faim, semble-t-il. Et puis boum, deux fois boum en 5 minutes, peu après l'heure de jeu, 60-65e, Paul Pogba d'abord, on l'a entendu, et puis Kylian Mbappé assomme les Vatreni qui à cet instant n'ont plus vraiment rien de flamboyant. À 4-1, l'affaire est entendue, même si la boulette du goal Lloris offre la réduction du score à Mario Mandzukic et un peu d'espoir aux Croates. La France est donc championne du monde pour la deuxième fois. Elle égale l'Uruguay et l'Argentine. N'en déplaise au Réfé et n'en déplaise bien sûr à Antoine Griezmann qui est allé voir Antoine Grenier du côté de la Flash Interview. C'est un endroit où les joueurs passent bien volontiers, s'arrêtent et se livrent tels qu'ils sont. Écoutons d'abord Antoine Griezmann.
C'est beau, hein. Putain, mais on réalise pas encore. Voilà, on est en train de kiffer, de passer un bon moment. Le vestiaire, voilà, c'est le bordel. Tout le monde a parlé, tout le monde chante, tout le monde danse. Et voilà, on a hâte d'aller en France et de fêter ça avec les Français. On est fiers d'être Français et on a envie de rentrer.
Vous êtes resté longtemps sur la pelouse. Vous vouliez savourer vraiment.
Ouais, parce que je me rendais pas compte. Quand on menait au score, je me disais putain, faut que je défende pour pas qu'on encaisse de but. Et voilà, on a essayé de tout donner. À la fin, on n'avait plus de jambes et franchement, c'est beau. J'espère que ma fille, elle sera fière d'aller à l'école et dire mon papa est champion du monde.
Ça, on n'a pas beaucoup de doutes là-dessus, sur le fait que la fille d'Antoine Griezmann sera fière d'aller à l'école et de dire « mon papa est champion du monde ». Il le sera peut-être d'autres fois, parce qu'il faut rappeler que cette génération est très jeune. Hein. 26 ans seulement de moyenne d'âge en équipe de France, 47 sélections, c'était bien plus jeune que les Croates, et également en termes de sélection. Et c'est vrai que cette fougue française a payé, même si on peut pas dire qu'ils aient livré un match tout à fait flamboyant par ailleurs. On l'a dit, les Croates ont été plus techniques et plus entreprenants. Non, mais les Français ont contrôlé, ont géré, comme ils savent le faire depuis le début de ce deuxième tour, huitième, quart, demi. Et puis final, je vous propose d'écouter, on a entendu Griezmann, on va écouter Paul Pogba. C'est normal, content, évidemment, Paul Pogba, il nous a fait un festival au micro d'Antoine Grenier. En voici un extrait.
Je suis très content, c'est vrai, mais on a joué contre une équipe qui était vraiment, vraiment bonne. Vraiment une équipe de Croatie, avec beaucoup d'expérience, on a vu de l'expérience, ils nous ont mis en difficulté. Mais on a su faire la différence, on a pu marquer. On a eu un penalty sur des fautes, sur l'arbitre, sur des choix d'arbitre. Mais bon, ça c'est le football, c'est comme ça. Mais on a su répondre aussi en deuxième mi-temps. C'était beaucoup meilleur que la première. Et voilà. Après le reste est venu tout seul. Voilà, Monsieur Mtiti qui est là.
Ah oui, yes.
Mais ce qui paraît, t'es champion du monde, c'est vrai?
Tu penses qu'on est champion du monde, frérot?
Je pense que oui. Et toi?
Moi, je crois aussi, frérot. Je crois qu'on a un truc en plus. Il y a une petite étoile en plus, je crois.
Ah ouais, c'est vrai. C'est bien ça.
On allait la chercher, celle-là.
Ah oui. Oh, c'est rêve de gosse qui se réalise. Franchement, c'est un truc de fou.
C'est lui qui reprend.
Très inspiré, je reprends, effectivement très inspiré, notre ami Paul Pogba, Olivier Pron. Il avait été désigné meilleur jeune en 2014, et cette fois le meilleur jeune c'est Kylian Mbappé, symbole de la jeunesse triomphante française, celle dont vous parliez à l'instant.
Oui, c'est vrai. Et puis cette jeunesse qui vous rendez compte, oui, ils sont champions du monde pour l'éternité. On en parle depuis 20 ans pour la génération Zidane. Et eux, on va leur en parler pendant 20 ans et plus encore, à moins qu'ils ne soient encore champions du monde dans 4 ans. On n'en est pas là. Qu'ils savourent d'abord. Quant à Kylian Mbappé, rendez-vous compte, ce garçon. Il est champion du monde. On le compare à Pelé. Il a 19 ans. Il a marqué 4 buts dans cette compétition. Un contre le Pérou, 2 face à l'Argentine que personne n'a oublié avec une pointe de vitesse de dingo. Et là, il en marque un en finale de 25 mètres, une frappe rater pleine de sang-froid. Croyez-vous qu'il s'enflamme? Non, il est tranquille, Kylian Mbappé. Écoutez ça.
Je suis content, on est champion du monde. On a dit que c'est ce qu'on voulait, on l'a eu et on va savourer maintenant avec tout le monde. Je suis vraiment content. Mais comme je vous ai dit, on va faire la fête et on va profiter jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'heure. On est fiers. Après, c'est, comme j'ai dit, c'est tout ce que j'ai rêvé. Je suis content et je pense plus que c'est, comme je vous ai dit, une étape dans une carrière. Ça vous donne envie de vraiment continuer à travailler pour aller encore plus loin. Beaucoup d'émotions, je suis tellement fier, vous pouvez pas imaginer, mais je sais aussi que c'est une étape. Je pense que si je m'arrête ici, même si je suis champion du monde, j'ai d'autres choses à faire encore dans le foot et bah, j'ai tellement d'objectifs que je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui, mais je sais qu'il faudra se remettre au travail. Pour certains, c'est vrai que c'est aussi un accomplissement, ils ont travaillé toute leur carrière, moi je suis qu'au début, donc c'est vrai que pour moi ça ressemble à une étape. Donc c'est une grosse étape, la plus grosse de ma carrière pour l'instant, mais ça reste quand même une étape et j'espère continuer comme ça. Voilà, ça va rester à jamais, on sera à jamais dans l'histoire. Après, comme je vous ai dit, on est tellement fiers qu'on va vraiment profiter avec tout le monde parce que tout le monde le mérite et on est vraiment content. C'est des moments qui n'ont pas de prix. Il faudra avoir les yeux grands ouverts, les oreilles et tout. Donc, ouais, je suis pressé.
Kylian Mbappé, le prodige, la pépite française. Et si Olivier Pron parlait maintenant de son guide, le guide de Kylian Mbappé, le guide de tout le groupe France, un certain Dédé comme Didier Deschamps.
Ouais, vous rendez compte que Kylian Mbappé a 19 ans, il pourra un jour peut-être devenir le guide lui aussi. Qu'est-ce que ça va être? Ce garçon est phénoménal quand on l'entend, mais vraiment, j'ai jamais vu un joueur de foot en 25 ans parler comme ça, avoir la tête si tranquille, si bien posée sur les épaules. Eh ben, ça vient sûrement de son éducation. Alors bravo aux parents. Quant à Didier Deschamps, bah lui, il rentre dans l'histoire. Il devient aujourd'hui le troisième homme dans l'histoire de la Coupe du Monde, et ça remonte à loin, à la remporter à la fois en tant que joueur, c'était en 98, et comme sélectionneur, c'était il y a quelques heures. Il égale Mario Zagallo, bien sûr, le Brésilien, et Franz Beckenbauer, excusez du peu, l'Allemand. Il a fait des choix forts, il a été critiqué, il a choisi de se passer de Benzema, plein de gens lui disaient, mais quand même, c'est l'attaquant du Real Madrid, il a tenu parce qu'il tenait à son groupe, et ce groupe le lui rend bien, il a résisté à toutes les critiques, il a façonné ce groupe, il l'a construit à son image, il l'aime tellement ce groupe, il aime tellement ces jeunes, bah qu'il ne veut pas parler de lui, il parle de Didier Deschamps.
Le match, le terrain, il appartient aux joueurs, c'est superbe, c'est une apothéose ce soir pour cette génération-là. On est parti de loin parce qu'on est une équipe jeune, même s'il y a des joueurs qui ont un certain vécu et une certaine expérience, mais d'être sacré ce soir champion du monde, c'est fabuleux et c'est quelque chose de merveilleux pour eux, c'est ce que je leur ai dit. Ces 23 joueurs-là, ils seront liés à vie par ce qui s'est passé ce soir et personne ne pourra jamais leur enlever ça.
Personne ne pourra jamais leur enlever cela, ça c'est certain. Personne ne leur enlèvera cette deuxième étoile. Il succède donc tous ces Griezmann, Pogba, Mbappé, Kanté, il succède à cette génération qu'on a tous admirée. C'était les Zidane, les Blancs, les Desailly et donc Didier Deschamps qui se succède presque à lui-même. On n'a pas fini de les admirer ceux-là, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes maintenant et il va falloir compter avec eux pour quelques années encore, on l'espère en tout cas, Hugo Moissonnier.
Merci, on l'espère, tout à fait, Olivier Pron. Merci beaucoup de nous avoir réservé le peu de voix qui vous restait. Très bonne fin de séjour en Russie à vous, Olivier Pron, en direct de Moscou. Et la Russie, on la quitte pour mieux la retrouver dans quelques instants. Voyage à la vitesse du son dans Mondial Sport. D'abord, on revient à Paris. Paris qui forcément est une fête ce dimanche. Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Vous êtes sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Noir de monde juste après le coup de sifflet final tout à l'heure. Qu'en est-il Thomas, quelques heures après la victoire de la France face à la Croatie?
Alors Hugo, je vais être très honnête avec vous. On s'est légèrement éloigné des Champs-Élysées pour cause de mouvement de foule. Mais ce que je peux vous dire jusque-là, c'est que voilà, mieux vaut ne pas être agoraphobe dans ces moments-là. L'avenue, la plus belle avenue du monde, comme vous le disiez. Noir de monde, sans doute plusieurs centaines de milliers de personnes, plutôt peut-être même un peu plus. Et jusque-là, une fête dans un très bon esprit, très bon enfant, des gens qui voilà se tapent dans les mains, des drapeaux français évidemment, du maquillage aux couleurs des tricolores, des chants bien sûr pour célébrer les héros du jour. Il y a eu des chants pour Umtiti, des chants pour Pavard, des chants pour Mbappé, des chants pour Griezmann. Tout le monde a eu le droit à sa petite chanson. Voilà, je vous disais, fête dans un très bon esprit jusque-là. Et d'ailleurs, je suis, si vous me permettez de repasser la parole, avec des supporters français, notamment notre ami qui s'appelle Julien, qui est à côté de moi, qui a 26 ans. Et il m'expliquait que, voilà, il était un petit peu jeune en 98 pour vivre ça. Là, il est avec nous et voilà, on va lui demander, Julien, il y a eu une génération 98, est-ce que vous êtes la génération 2018, vous?
En 98, on était vraiment jeunes pour le coup, parce qu'on n'était pas sur les champs.
Maintenant, en 2018, on est ici pour vraiment fêter la victoire. C'est un truc exceptionnel, parce que 2006, ça s'est passé, certes on l'a perdu, mais là, 2018, deuxième étoile, c'est quelque chose de fabuleux pour nous. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Champs-Élysées? On est monstrueux, on est champion du monde, pendant 4 ans, on ne pourra pas nous l'enlever. Et vive la France, vraiment, vive la France.
Voilà, vive la France, je sors moi aussi de mon rôle de supporter quelques secondes pour souligner cette phrase de Julien. Un dernier mot, Hugo, pour vous dire qu'aussi on a vu énormément de drapeaux, notamment de la RDC, d'autres pays africains aussi, pour souligner les origines africaines de certains joueurs de l'équipe de France. Certains, voilà, ces gens-là étaient fiers de dire qu'ils étaient français et à la fois qu'ils avaient des origines qu'ils partageaient avec ces joueurs de l'équipe de France. La France est championne du monde et on est tous un petit peu champions du monde ce soir.
Merci Thomas de Saint-Léger, merci Julien, à Paris, près des Champs-Élysées, sur lesquels se trouveront les joueurs de l'équipe de France pour communier avec leurs supporters demain. Je vous l'avais promis, retour en Russie, retour à Moscou, pour retrouver cette fois Daniel Valo. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
On va sortir de cette finale France-Croatie, le dernier match de ce mondial russe, pour parler du tournoi dans son ensemble, de son organisation plus précisément. Alors Daniel, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Moscou. Selon vous, la Russie a-t-elle réussi sa première Coupe du Monde ?
Oui, écoutez, c'est indéniable, hein. On peut même parler de quasi sans faute pour ce mondial de foot en Russie en termes d'organisation. Il n'y a eu aucun problème de violence, aucun problème de hooliganisme, ni heureusement de terrorisme. Pas de problème non plus en termes d'incidents racistes, alors que l'on craignait éventuellement de voir ces incidents éclater. Les supporters étrangers qui sont venus ici, sont enchantés par l'accueil, par l'hospitalité russe et par cette organisation qui a très bien fonctionné. Les stades, enfin, modernes, fonctionnels, ont été salués par à peu près tout le monde, les joueurs comme les membres de la FIFA. Donc un sans faute, et le seul couac de cette compétition, si je puis dire, finalement, il est intervenu ce soir durant cette finale avec cette intrusion de 25 secondes top chrono de membres des Pussy Riot. Vous savez, les Pussy Riot, c'est ce groupe contestataire russe, donc qui a réussi à envahir la pelouse brièvement durant cette finale pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Russie et demander une véritable pluralité politique, pour rappeler en quelque sorte que tout n'est pas si rose en Russie aujourd'hui.
Alors justement, on a beaucoup dit avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde qu'elle servirait peut-être trop les intérêts de Vladimir Poutine et de sa gouvernance contestée, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'international. Selon vous, Vladimir Poutine s'est-il offert une publicité géante à travers ce mondial ?
Oui. Bah c'est évident. Alors une pub qui lui a coûté un petit peu cher, hein, quand même, parce que la Coupe du Monde a coûté 10 milliards d'euros. Donc alors c'est un argent qui va être utilisé, qui a été utilisé pour construire des stades, évidemment, des infrastructures. Mais tout de même, c'est une sacrée somme. Et en effet, bien cette pub, on peut dire qu'elle a fonctionné à plein. Le bénéfice en termes d'image est sans doute maximal pour Vladimir Poutine et pour la Russie. Si on parle en termes de soft power, pour reprendre une expression un petit peu à la mode, le bilan est totalement positif. D'abord parce que il y a ces centaines de milliers de personnes qui sont venues ici en Russie, ces supporters qui sont venus et qui vont ramener chez eux cette image positive dont je vous parlais à l'instant. Et puis les médias eux-mêmes qui ont relayé enfin, j'allais dire, une histoire positive sur la Russie. C'est ce que cherchait Vladimir Poutine, et c'est aussi ce qu'ont martelé les médias russes, proches du Kremlin en tout cas, au cours de cette Coupe du Monde. Ces médias ont expliqué, le monde voit cette image positive, cette image différente de la Russie, et c'est grâce au football. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, une écrasante majorité de Russes sont très fiers d'avoir donné cette image-là à l'extérieur.
Merci beaucoup Daniel Valo, envoyé spécial permanent de RFI à Moscou. J'en profite pour remercier tous les envoyés spéciaux en Russie et ailleurs qui nous ont fait vivre cette Coupe du Monde 2018 sur RFI. On va rejoindre un dernier, on requitte la Russie pour retrouver l'Europe, Zagreb, plus précisément la capitale de la Croatie, où se trouve Oriane Verdier. Bonsoir Oriane.
Bonsoir.
Alors, dites-nous si la défaite des Croates a gâché la fête dans la capitale du pays.
Bien, c'est sûr que j'imagine que la fête n'est pas aussi intense que ça l'aurait été si ils avaient reçu la coupe du monde. Mais aujourd'hui, quand même, la fête continue ce soir et sûrement demain encore lorsque les joueurs de Croatie rentreront chez eux, parce qu'ils sont maintenant vraiment vus comme des héros ici, ceux qui ont mené ce petit pays en finale de la Coupe du Monde.
Alors, racontez-nous un peu la soirée, ou plutôt cette fin de journée que vous avez vécue en compagnie des supporters croates. Je parle de cette victoire, française, de cette défaite croate, 4-2 face aux Bleus.
Eh bien, tout d'abord, il y a en effet eu quand même un grand vide et une grosse déception. J'ai vu énormément de supporters quitter la place sur laquelle nous regardions le match, rentrer donc chez eux avant même le deuxième but croate. Tout le monde partait la mine défaite et refusait bien sûr de me parler. Mais bon, bien sûr, là, beaucoup de supporters sont tout de même restés. Ils ont applaudi jusqu'au bout leur équipe. Et finalement, une fois le coup de sifflet final sifflé, tout le monde a pensé à la fête et à finalement ce magnifique succès qu'a fait l'équipe croate que de mener ce petit pays en finale de Coupe du Monde.
Merci beaucoup Oriane Verdi, en direct dans Mondial Sport, en direct de Zagreb en Croatie pour RFI. Alors forcément, les autres événements sportifs, ils ont été un peu éclipsés par cette finale de Coupe du Monde. Et pourtant, comme la Terre, les roues n'ont pas arrêté de tourner sur les routes du Tour de France. Au programme, ce dimanche, la 9e étape, un peu plus de 156 km entre Arras et Roubaix dans le nord de la France. Au programme, des pavés infernaux, mais aussi du ballon rond dans la tête de pas mal de personnes. Stéphane Lagarde, l'un de nos envoyés spéciaux, a pu le constater. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Hugo.
Une question simple pour vous, comment s'est-on organisé sur la grande boucle pour quand même essayer de suivre la finale du Mondial et la victoire des Bleus ?
Eh ben c'était compliqué avec une arrivée sur les pavés à 40 minutes seulement du coup d'envoi. Il a fallu effectivement jongler. Certains avaient prévu des petits écrans pour voir le match à l'intérieur des véhicules qui repartaient vers Annecy. D'autres ont fait bien des stops dans les cafés ou chez des amis. Mais pour une grande partie des suiveurs, en tout cas des journalistes ici et des techniciens, eh bien on a vu tout simplement cette finale dans la zone technique qui est collée à la ligne d'arrivée à chaque étape, avec une drôle d'ambiance puisqu'il y avait des échos entre les camions, des échos des buts des Bleus.
C'est comme des ralentis, je les vois deux fois en plus, c'est pas mal. Hein. Faut se débrouiller, faut de s'organiser, faut se débrouiller parce qu'apparemment il y avait un écran qui était prévu mais qui était annulé.
Oh là là, ça regarde.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a tellement de décalage sur son écran qu'on a en direct ce qui se passe ailleurs d'un autre écran qui lui est en avance. Et on espère qu'il y aura un troisième but. Voilà.
De camion en camion.
De camion en camion.
Voilà Hervé, notre collègue caméraman de France 2 qui nous raconte donc ses échos, hein, comment on suit le match de camion sur cette zone technique. Et puis on s'est rapproché du coup de la fan zone qui avait été mise en place juste à côté de la ligne d'arrivée également par la mairie de Roubaix. On pouvait suivre le match sur un écran géant sur le gazon synthétique du stade avec Joël, un spectateur venu de Tourcoing, fan de vélo et de football.
On est des fans de vélo et de football pour la France, donc très heureux, une grande journée de sport comme ça, c'est génial. C'est voilà, des super sportifs. Ils mettent le sport à l'honneur, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Et puis bah le vélo, c'était vraiment très très fort cet après-midi, une
dommage
super étape.
Dommage pour Bardet.
Là, les pavés, tout ça, c'est dur. Les damiers, c'est dur aussi. Donc tout ce qui est carré, c'est pas bon aujourd'hui. Mais on y croit. Il faut qu'on... Allez les Bleus, allez la France.
Les carreaux du Nord et les damiers croates, épreuve donc pour les nerfs et pour les équipes, et aussi pour les suiveurs et les fans hein, de vélo et de foot. Là, 4-2 pour la France au final. Jérôme est venu lui aussi supporter les coureurs. C'est un fan de vélo du Nord. Et il a apprécié l'esprit d'équipe des Bleus. On l'écoute.
C'est 4-2, c'est super. C'est une finale avec des buts, c'est une finale de rage, c'est une finale de groupe, c'est une finale de... C'est extraordinaire. Deux étoiles. Il n'y a qu'un leader dans le vélo. Ils travaillent tous ensemble. Le leader est toujours ramené par ses collègues, par ses copains. Bah là, c'est pareil. Loris, il fait une faute. Là, les joueurs, ils vont vers lui. Allez, c'est pas grave, il y a 4-2, on va y aller. Et bah, on y est allé, ça fait 4-2 et on est champion du monde.
Voilà la joie de Jérôme, donc un fan de vélo qui a suivi ce match depuis la fan zone. Tout le monde n'était pas au courant, hein, d'ailleurs, qu'il y avait un match. J'ai quand même vu, moi, des fans de vélo avec des bobs jaunes qui me demandaient où était Thomas Vauclair après la finale, alors que tout le monde criait de joie dans les rues de Roubaix.
Merci Stéphane Lagarde. Effectivement, il planait un petit peu ces deux amateurs de cyclisme. On se tourne maintenant vers Éric Chorin, qui est à vos côtés pour suivre ce Tour de France dans le studio mobile RFI. On va revenir avec vous, Eric, sur la course en elle-même, cette 9e étape du Tour, Arras, Roubaix. Elle a été digne d'une classique, Eric, avec ses 15 secteurs pavés, ses chutes à répétition et son final à 3 entre spécialistes de l'Enfer du Nord.
3 pour la gagne, Hugo, dont deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix, Degenkolb en 2015 et Van Avermaet en 2017. Et c'est finalement l'Allemand John Degenkolb, le plus rapide des trois, qui s'est imposé sur la ligne devant les deux Belges, Greg Van Avermaet et Yves Lampaerts. Van Avermaet, le porteur du maillot jaune qui n'a pas tout perdu hein, dans l'affaire, puisqu'il conforte son avance au général de 7 secondes au départ de l'étape. Cette avance est passée à 43 secondes sur le Britannique Geraint Thomas, le plan B de l'équipe Sky en cas de défaillance de Froome. Le Belge de la BMC sera donc en jaune pour attaquer les Alpes mardi après la journée de repos, plus qu'un lot de consolation pour l'équipe de Van Avermaet qui a perdu son leader, l'Australien Richie Porte, victime d'une lourde chute et contraint à l'abandon avant même le premier secteur pavé. Le pire, c'est que Porte avait abandonné de la même manière l'an passé, une chute également assez effrayante dans la descente du Mont du Chat et c'était déjà dans la 9e étape. Du coup, entre sa défaite sur la ligne d'arrivée et l'abandon de Porte, la journée du porteur du maillot jaune depuis la 3e étape n'est pas tout à fait celle dont il avait rêvé, même s'il la sentait bien avant le départ à Arras. Greg Van Avermaet avec Bertrand Eclair.
C'était bien, j'étais content de mon course, ouais. Deuxième, c'est pas bien. Ah ouais, c'est pas bien, c'est un peu déçu, mais ouais, j'étais bien de mon course, attractif, toujours devant, ça a été toujours important, je pense, dans la course ici. Mais ouais, on parle du Richie et c'était pas vraiment bien pour faire le deuxième et troisième semaine dans le Tour comme l'année passée. Pour Richie dans la tête aussi, ça a été pas facile, je pense. Et j'espère TJ Van Garderen il peut faire un classement général aussi maintenant.
Sauf que TJ Van Garderen, le coéquipier américain de Van Avermaet, fait lui aussi partie des victimes du jour. Il n'a pas abandonné, mais troisième au général à 9 secondes le matin. Il pointe désormais à plus de 6 minutes. Les pavés ont parlé et ont entraîné des chutes à répétition pour d'autres leaders. Rigoberto Urán, deuxième du Tour l'an passé, Mikel Landa, quatrième, et même Christopher Froome, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Quant à Romain Bardet, il n'est pas tombé, mais a crevé trois fois et passé la journée à rouler pour rattraper son retard deux fois, ne lâchant que 7 secondes la troisième fois. Mais il peut dire merci à ses coéquipiers chez AG2R, Oliver Nessen, Sylvain Dillier ou Tony Galopin. Stéphane Lagarde a réussi à lui tendre son micro et vous, tendez l'oreille.
Une journée de fou, trois crevaisons. Je ne pourrais pas gagner un peu plus de pire. J'avais des super équipes, une équipe phénoménale. Vous savez, dans l'équipe, j'ai la chance d'avoir 7 mecs qui sont prêts à tout donner pour moi sur le vélo, à moi, pour moi sur le pavé. Oliver, c'est typiquement le type d'étape qui pourrait gagner si Van a fait deuxième par Roubaix. Tony, un coureur de classe internationale et j'ai crevé trois fois. Moi, mon idée, c'était vraiment de tout faire exploser sur les pavés. J'avais vraiment de bonnes sensations, mais c'est vrai que j'ai souvent déchanté. Mais si mon tour n'est pas fini ce soir, c'est vraiment grâce à vous.
Car à l'issue de cette première semaine, Hugo, le Français attaquera les Alpes avec 50 secondes de retard sur l'Américain Christopher Froome après une journée de repos bien méritée à Annecy.
Une journée de repos bien méritée pour vous aussi, Éric Chorin. Merci. Merci à Stéphane Lagarde et merci également à Bertrand Eclair, l'homme sans qui il serait impossible de suivre le Tour de France sur RFI. Oui, il n'y avait pas que du football ce soir, aussi un peu de cyclisme, également un peu de tennis. Kevin Anderson, le Sud-Africain, battu en finale d'un tournoi du Grand Chelem, quelques mois après avoir perdu en finale également de l'US Open. Il s'est incliné à Wimbledon face à Novak Djokovic ce dimanche. Le score 6-2, 6-2, 7-6. Heureusement, entre guillemets, le football et la Coupe du Monde, même si celle-ci est terminée, reviennent demain sur RFI, édition spéciale dans notre matinale de 7h à 10h, heure de Paris, 2h de moins en temps universel, bien sûr. Radio Foot International, Annie Gasnier et toute sa bande pour revenir sur le sacre des Bleus. Merci encore une fois à toutes les équipes de RFI qui vous ont fait vivre cet événement en Russie, celles qui vous l'ont fait vivre également ici à Paris, et merci à Hélène Avril et Adrien Gentil qui m'ont aidé à préparer ce numéro de Mondial Sport. Très bonne soirée à vous à l'écoute de la Radio du Monde.